le choix que le conseil lui proposait, à savoir que dans ce groupe qui se réunit dans la grande salle, au moins pour cette année, ce soit une introduction aux livres prophétiques de l'Ancien Testament, ces livres parfois un peu difficiles pour celui qui lit sa Bible tout seul, et qui vous soit présenté. Nous n'aurons certainement pas le temps de les voir tous pendant les quelques séances en dehors des instituts bibliques communs que nous devons avoir ensemble. Alors, je ne sais pas ce qu'il en sera des années suivantes. Nous commencerons en tout cas par les prophètes les plus anciens aujourd'hui et pendant l'année scolaire, l'année de travail 91-92. J'essaierai de ne pas remplir absolument toute l'heure, nous avons en principe une heure dans ces cours d'institut biblique, par l'exposé, de laisser quelques moments à la fin pour des questions, pour des entretiens, des échanges. Cependant, je dis tout de suite que si pendant le cours de l'exposé, il y a quelque chose que vous ne comprenez pas bien, vous ne devez pas hésiter à interrompre, à lever la main. J'ai l'habitude dans les classes de la faculté ou de l'institut de recevoir de telles questions, alors ça ne me gêne pas du tout. Donc s'il y a un mot qui vous paraît trop compliqué, si vous avez besoin d'une clarification, surtout n'hésitez pas à interrompre, même pendant le temps qui précédera les échanges à la fin. Je vous invite à la prière. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te rendre grâce pour ta parole, pour sa fiabilité, pour sa pertinence éternelle, parce qu'elle nous apporte ta pensée pour notre temps, comme pour tous les autres temps. Nous te louons pour les prophètes que tu as suscités, pour l'enregistrement de leurs messages par écrit, et nous te demandons maintenant l'aide de ton esprit pour que nous progressions dans la découverte de tous les trésors de ta grâce, de ta vérité que tu as préparé pour nous. Veuille nous donner une grande liberté ensemble, que nous soyons fortifiés dans l'homme intérieur, chacun, pour ton service, pour glorifier ton nom en Jésus-Christ. Amen. Qu'est-ce qu'un prophète ? Je pense que si vous posiez cette question aux gens dans la rue, la plupart répondraient c'est un prédiseur. C'est quelqu'un qui dit à l'avance les choses qui vont se passer. La fonction principale de la prophétie, selon l'usage qu'on fait très ordinairement de ce mot, c'est la prédiction. Mais ce n'est pas tout à fait le sens biblique. Certes, il y a des prédictions dans l'Écriture, et ce sont même les seules prédictions qui soient infaillibles, qui soient parfaitement sûres. Il peut arriver que des gens prédisent l'avenir et puis ça tombe juste, par hasard, ou bien peut-être grâce à l'intervention d'esprits impurs qui leur donnent de savoir des choses qui ne sont pas accessibles au commun des mortels. Mais jamais ces prédictions à la Nostradamus ne peuvent être considérées comme infaillibles. Même des voyantes réputées qui ont surpris tout le monde par une prédiction exacte se trompent aussi. Les seules prédictions parfaitement sûres, à 100%, ce sont celles des prophètes de la Bible. Mais cependant, il ne faudrait pas croire que prédire ait été la principale des choses qu'ils ont eu à faire, et que le mot même de prophète signifie quelqu'un qui prédit. En fait, le mot signifie plutôt quelqu'un qui prodit. Le préfixe pro dans prophète correspond à son usage, par exemple, dans le mot français pronom. C'est en grec, mais c'est à peu près la même valeur qu'en latin. Donc, un pronom, c'est ce que vous mettez à la place d'un nom dans une phrase. Vous dites « il » au lieu de dire « monsieur Morel ». Bon, c'est à la place du nom. Eh bien, un prophète, c'est quelqu'un qui parle à la place d'un autre. C'est un porte-parole qui prodit. Il peut aussi prédire, si celui qui parle par lui, par son truchement, a des choses à dire sur l'avenir. Mais l'idée clé du prophète, pour la Bible, c'est qu'il est la bouche de l'Éternel. Vous savez que c'est une expression que l'on rencontre plusieurs fois, la bouche de l'Éternel a parlé. Le prophète, c'est le porte-parole, celui en qui Dieu met ses paroles pour qu'il les transmette à son tour. C'est là la notion clé de la prophétie biblique. Et je vais en donner quelques illustrations, simplement pour que vous saisissiez bien ce qui est en cause. Vous prenez la vocation des trois plus grands prophètes de l'Ancien Testament, les auteurs des trois plus grands livres prophétiques. Chaque fois, au moment de leur vocation, il est question du message que Dieu leur confie et qu'ils vont dire en son nom, comme s'ils étaient sa bouche. En un sens, ils sont sa bouche sur la terre. Vous vous rappelez la vocation d'Ésaïe, le premier. Ésaïe, d'abord, est préparé pour ce ministère par le charbon ardent que le séraphin va chercher sur l'autel, là où brûle le feu du sacrifice, et qu'il applique sur les lèvres d'Ésaïe, en disant « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est expiée ». C'est la purification des lèvres du prophète, parce que c'est par ses lèvres qu'il va servir le Seigneur. Il s'était rendu compte, devant la sainteté de Dieu, qu'il avait les lèvres impures, impropres à la retransmission de la parole de Dieu. Alors le séraphin, qui symbolise la sainteté de Dieu, va chercher le charbon ardent qui est comme chargé de toute l'efficacité du sacrifice, et il l'applique aux lèvres du prophète. Et à ce moment-là, Dieu l'appelle à son service et lui dit « tu diras à ce peuple, etc. » Vocation de Jérémie, ensuite, un siècle, en gros, un siècle plus tard, vocation de Jérémie, « Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. » Ne dis pas « je suis un enfant », ne dis pas « je suis trop jeune ». Je mets mes paroles dans ta bouche. Voilà, résumé en une phrase, en quelque sorte, l'essentiel du ministère prophétique. Et puis Ézéchiel, le troisième grand, un peu plus tard, Ézéchiel, lui, au chapitre 2, après sa grande vision du chapitre 1er, où c'est l'inimaginable élévation du Seigneur qui lui apparaît, le Seigneur du cosmos entier, il est appelé à son ministère d'une manière qui est un peu plus bizarre. Dieu lui dit de manger un rouleau. Un rouleau de papyrus. Le rouleau sur lequel est écrit le message. C'est la même pensée que dans la vocation de Jérémie. Seulement, le Seigneur utilise un symbole, celui du rouleau, qui représente le message à transmettre. Et lui dit, mange-le, mange-le, il faut que tu l'intériorises d'abord pour qu'ensuite tu puisses le retransmettre. Encore une illustration de ce sens biblique du ministère prophétique. Lorsque Moïse est appelé lui-même au ministère que Dieu lui a confié au début du livre de l'Exode, vous savez qu'il dit aussi qu'il ne sait pas parler, qu'il ne pourra pas s'arranger, peut-être bégayait-il un petit peu, enfin. Et le Seigneur a beau insister, Moïse regimbe, hésite. Et finalement, le Seigneur lui dit, bon, eh bien, il y a Aaron ton frère, lui il a la langue bien pendue, il y a Aaron ton frère, eh bien, Aaron te servira de porte-parole. C'est lui qui apportera le message dont tu seras chargé. Et le Seigneur dit au chapitre 4, à Moïse, tu seras Dieu pour Aaron, en quelque sorte, puisqu'il sera ton porte-parole. Quand un prophète parle, il y a Dieu qui parle, et puis le prophète qui retransmet le message. Là, ce sera Moïse qui parle, il aura donc la place de Dieu, et puis Aaron qui retransmettra le message de Moïse. Et au chapitre 7, Dieu confirme en disant, tu seras Dieu pour Pharaon, ils vont parler au roi d'Égypte Pharaon, et Aaron sera ton prophète. Parce que le mot prophète veut dire porte-parole. Voilà donc le sens biblique principal, essentiel, de ce qu'est un prophète. Mais alors, avec ce sens-là, vous vous rendez compte que, on peut dire finalement de tous les auteurs de la Bible que ce sont des prophètes, puisqu'ils ont parlé au nom de Dieu. Et c'est vrai, la Bible le fait en fait. La Bible, en réalité, appelle Abraham un prophète, dans le livre de la Genèse, appelle David un prophète. C'est l'apôtre Pierre, le jour de la Pentecôte, qui rappelle que David était prophète, bien qu'il ne soit pas dans la liste habituelle de nos prophètes. Alors, si on veut considérer cette liste habituelle de nos prophètes, il faut ajouter une précision. Ce sont ces porte-paroles de Dieu, mais disons, entre Moïse et Jésus-Christ. Entre la conclusion de la grande alliance faite avec Israël, d'un côté, l'alliance du Sinaï, et puis la venue de Jésus-Christ, de celui qui était attendu. C'est cette situation qui caractérise les prophètes au sens plus précis, plus technique, si vous voulez, plus restreint, de l'Ancien Testament. Et il me semble intéressant de schématiser les étapes de ce grand mouvement, parce que les prophètes, Dieu les a envoyés d'une manière ordonnée pour correspondre au développement de son plan. Il ne faut pas simplement considérer cet individu que Dieu a choisi pour qu'il soit son porte-parole, mais aussi le mouvement des prophètes, le cortège en quelque sorte des prophètes qui se sont succédés selon que Dieu en avait disposé. Alors je crois qu'il est intéressant de regarder un petit peu comment s'est développé le mouvement prophétique entre Moïse et Jésus-Christ. Je vais faire un petit schéma sur ce tableau. Alors, les frères et sœurs qui sont ici à gauche, peut-être pourraient se déplacer pour voir un peu plus ce que je vais dessiner. Oh, il aurait fallu Monsieur Jacques Richard pour faire de beaux dessins. Moi, je me contente de quelque chose d'extrêmement rudimentaire, mais disons pour que vous voyez un petit peu mieux ce dont il s'agit. Alors, entre Moïse, le Sinaï, et les tables de la loi. Et Jésus-Christ. Il me semble qu'on peut discerner plusieurs âges de la prophétie. Le premier, c'est celui que nous voyons un peu entre les lignes, il faut reconnaître, parce qu'il n'y a pas un développement extrêmement fourni du temps du livre des Juges et de Samuel, jusqu'au début du règne de Saül, au moment où Saül va prendre en charge les destinées de la nation d'Israël comme le premier roi. Pendant donc cette période de l'installation en Canaan, de l'établissement des tribus sur la terre promise, il me semble qu'on peut dire qu'il y a essentiellement deux types de prophètes, d'après ce qu'on voit dans les récits historiques qui nous ont été transmis. Il y a des prophètes qu'on pourrait dire les prophètes voyants. La Bible elle-même nous dit, autrefois on ne disait pas prophète, on disait le voyant, mais voir le voyant. Samuel lui-même, tout en étant en même temps un juge, a joué ce rôle, le prophète voyant. La famille de Saül a perdu des ânesses qui se sont évadées dans la nature. Où sont-elles? Chez les païens, on irait voir un devin, une carte ancienne, et là on va voir le prophète, le voyant, pour qu'il demande au Seigneur la révélation de l'endroit où se trouvent ces ânesses. Alors là, nous avons donc des prophètes voyants qui sont tranquillement à la maison, qu'on va consulter. Mais nous avons aussi des prophètes, ceux-là on les appelle plutôt prophètes en effet, le mot courant en hébreu, Nabi, qui vont par bandes, qui sont en groupe. On les appelle parfois fils des prophètes, non pas dans le sens qu'ils seraient nés dans des familles de prophètes, pas forcément, parce que le mot fils d'eux en hébreu s'emploie pour la possession d'une qualité quelconque. Pour dire un homme de 30 ans, on dirait un homme fils de 30 ans. Alors, fils d'eux, donc, ça a un sens plus large hein, en hébreu. Les fils de prophètes, ça veut dire les jeunes prophètes, les apprentis prophètes, les prophètes qui vivent comme ça en communauté. Et il semble que ces prophètes aient été des prophètes d'un type extatique, ressemblant un petit peu, ils n'étaient peut-être pas tous inspirés toujours par l'Esprit de Dieu aussi, mais ressemblant un petit peu aux derviches. Quand ils rencontrent Saül en chemin, Il semble être assez dans un état un peu second, hein, avec de la musique, des danses qui se convulsent.
Bon, alors, je les représente comme c'est
en train de se retourner, de danser. Voilà les prophètes que nous avons dans cette première période. Et semble-t-il, Dieu n'a pas suscité de très grands prophètes en dehors de Samuel, juge de la nation. Aucun n'a laissé vraiment son nom. Et ces prophètes n'ont pas eu de message à léguer aux générations qui ont suivi. Voyez. Après cette période-là, alors, la royauté s'installe et Dieu suscite des prophètes qui vont conseiller et parfois contester, réprimander les rois eux-mêmes, des prophètes de cour. Donc vous avez le trône là, et puis le prophète qui vient parler au roi, comme, bon je ne dessine pas le roi, mais qui vient parler au roi comme Nathan l'a fait lorsqu'il a repris David. Vous vous rappelez comment Nathan, lorsque David avait commis ce double crime de l'adultère et du meurtre, Nathan est venu d'abord lui raconter une parabole et puis lui dire « Tu es cet homme-là ». Alors ça c'est, je dirais, la deuxième vague prophétique entre Moïse et Jésus-Christ, avec des prophètes étroitement associés au pouvoir royal, mais non pas à son service, au service de Dieu. Nathan et Gad étaient les prophètes au temps de David. Ensuite, vous savez que le peuple de Dieu a connu bien des malheurs, qui s'est divisé en deux royaumes après la mort de Salomon. Le royaume du nord d'Israël, comme on l'a appelé, des 10 tribus. Et puis le royaume du sud, Juda plus Benjamin, qu'on a appelé le royaume de Juda, autour de Jérusalem, qui a eu donc deux rois rivaux, des sanctuaires rivaux aussi, et que surtout dans la région nord, mais après ça aussi dans la région du sud, dans le royaume de Juda, l'état spirituel du peuple s'est dégradé, qu'il a subi des influences païennes de plus en plus fortes, et que, d'une part, beaucoup de gens se sont tournés vers les idoles, et d'autre part, c'est encore pire peut-être, nombre d'entre eux ont mélangé le culte du Seigneur, de l'Éternel, et le culte des idoles. Ils adoraient ça un peu tout ensemble, ils traitaient le Seigneur comme s'il était une des idoles. C'est ce qu'on appelle parfois le syncrétisme, ce qui veut dire principalement le mélange de choses qui ne devraient pas aller ensemble. Et Dieu a suscité au 9e siècle, c'est-à-dire donc vers 860 avant Jésus-Christ, un grand prophète réformateur, un prophète en quelque sorte qui s'est dressé au nom du Seigneur contre ce dévoiement et de la royauté et d'une majorité du peuple. C'est Élie. Élie, prophète réformateur, qui a été ensuite assisté et puis suivi par Élisée. Les deux grands prophètes réformateurs auxquels Dieu a donné de faire beaucoup de miracles, comme un signe qu'il les avait envoyés dans cette situation de corruption, de dessèchement spirituel. Alors Élie, moi, c'est le prophète qui appelle le feu du ciel. Vous vous rappelez l'épisode d'Élie au Carmel face au prophète de Baal. Voilà le temps des prophètes réformateurs, à qui Dieu donne des signes extraordinaires et qui se dressent. Pense-t-il tout seul, en fait, Dieu s'est réservé 7000 qui n'apparaissaient pas au grand jour, mais 7000 qui n'avaient pas plié le genou devant Baal, mais qui paraissaient presque seuls contre les pouvoirs établis de l'époque. Donc ça, c'est la troisième vague. Quatrième, alors, ça commence presque en même temps, juste un peu plus tard, mais ça va se développer surtout dans les siècles qui vont suivre, celle des la vague des prophètes qu'on pourrait dire penseurs, qui font de grands discours systématiques. Et je représente je représente leur message. Ils parlent donc au nom de Dieu, je les fais barbus bien sûr, d'une manière élaborée, systématique. Ils forgent une doctrine, ce que je représente par quelque chose d'un peu géométrique. Élie et Élisée ne l'ont pas fait. Élie et Élisée ont lancé des messages très percutants dans une situation donnée, mais ils n'ont pas développé un plus grand message. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de livre qui soit resté ensuite sous leur nom. Nous n'avons pas parmi les livres prophétiques un livre d'Élie, un livre d'Élisée. Mais avec ces prophètes qui commencent à la fin du IXe siècle et puis qui surtout seront nombreux au 8e et au 7e siècle avant Jésus-Christ, dont les dates en 700 et en 600, voyez, nous avons des prophètes qui développent une vision de l'ensemble du plan de Dieu, toute une interprétation des voies du Seigneur, le plus grand de tous, je crois qu'on peut le dire, en tout cas c'est lui qui a fait laissé le livre le plus long aussi, c'est Ésaïe. Ésaïe, avec 66 livres, 66 chapitres, je veux dire. Le 66 chapitres dans les 66 livres de toute la Bible, c'est commode de se le rappeler. Donc, les grands prophètes penseurs. Puis, les choses continuant à se dégrader dans l'état de Juda, d'Israël, puis ensuite Juda, il y a un temps que j'appellerais celui des prophètes martyrs. Oh, c'était aussi des prophètes penseurs. Mais Jérémie est le prophète martyr, type, pourrait-on dire. Lui qui a sans doute, d'après la tradition juive, péri, lapidé par ses concitoyens, et qui déjà, en tout cas d'après son livre, a été, vous le savez, enfermé dans une citerne, laissé, on pensait qu'il y crèverait, hein, au fond d'une citerne plus ou moins asséchée, il restait juste un tout petit peu d'eau dans la boue. Vraiment un prophète qui a souffert en sa chair et en son âme au moment les plus pénibles pour l'histoire de la nation juive. Alors là, on pourrait peut-être le représenter alors que les pierres de ses concitoyens pleuvent sur lui. Prophète martyr. Et puis après cette période alors de l'agonie des royaumes d'Israël et de Juda, ce qui se situe autour de l'an 600, 600 et après, un peu après, alors une dernière période pour le mouvement prophétique qui me semble être le temps de la prophétie plus livresque. Des prophètes qui viennent après beaucoup d'autres et qui ont lu leurs écrits et qui composent avec la mémoire de tout ce qu'ils ont lu, avec des tas de réminiscences, de souvenirs de ce qu'ils ont lu chez les autres prophètes. Alors, je représenterai ça en représentant un peu un rouleau, puisque c'était sous la forme de rouleau. Prophétie plus livresque, avec quelqu'un comme Zacharie, par exemple. Aussi, Daniel. Daniel n'est pas compté parmi les prophètes, techniquement, parce que c'était un homme d'État, et on parle plutôt d'un voyant apocalyptique. Mais enfin, c'est très proche quand même de la prophétie. Et lui aussi, il compose un livre. Il ne va pas prêcher sur la place publique. Donc je pense qu'on peut dire que le dernier âge de la prophétie dans l'Ancien Testament, c'est un âge de prophétie plus livresque. Ce qui ne veut pas dire qu'elle ne touchait pas la vie aussi. Les livres, ils sont très importants dans notre vie. Mais c'est sous cette forme davantage. Et quand Ézéchiel doit manger son message, représenté symboliquement par un livre, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est que ce temps de la prophétie livre s'annonce. Ézéchiel se situe un peu à la charnière de la période des prophètes martyrs, il a pas mal souffert lui aussi, et puis de la prophétie plus livresque. Et puis après, les rabbins eux-mêmes ont dit que l'esprit de la prophétie avait déserté Israël. C'est quelque chose de très très frappant. Dans le judaïsme même, on reconnaît que cette révélation prophétique continue est parvenue à sa conclusion, disons que ça s'est arrêté. Qu'il n'y a plus eu de succession légitime, authentique de prophètes. Oui, il y a eu ici ou là quelqu'un qui a pu avoir un don de prophétie, un message à un moment, mais on a bien perçu que ce grand mouvement était parvenu à son terme. Pour ma part, je considère que c'est vraiment une disposition remarquable du plan de Dieu. Dieu a voulu que la distinction entre les deux testaments soit bien marquée, qu'il y ait comme un vide de 3-4 siècles entre l'Ancien et le Nouveau Testament, pour qu'on ne croie pas que l'Ancien Testament, c'était la simple continuation de l'Ancien. Oui, c'était la continuation de l'Ancien, mais avec une différence. Il y a comme une césure, comme un intervalle pour bien dire le Nouveau Testament apporte du neuf. Et alors, quand Jean-Baptiste va surgir, il va surgir après 3-4 siècles d'interruption, de nouveau comme un prophète. C'est ce que les foules diront, mais oui, voilà, enfin, de nouveau. Il va surgir de nouveau comme un prophète, héritier de toute cette tradition, et qui la récapitulera en lui-même pour en montrer la fonction principale, celle de désigner le Christ. Vous savez que Jean-Baptiste est représenté comme cet index qui pointe vers le Christ. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et en un sens, Jean-Baptiste, c'est tout ce cortège des prophètes rassemblés en sa personne, indiquant le Christ. Voilà le schéma que je vous propose en ce qui concerne l'évolution du mouvement prophétique. Il y avait un problème qui est à mentionner, me semble-t-il, toujours dans cette introduction, qui se posait aux auditeurs de ces prophètes à tous les âges, et sur lequel nous ne pouvons pas faire l'impasse, en quelque sorte. C'était le problème de l'authenticité de leur mission. Vrai ou faux, prophète? Parce que, je vous ai parlé des prophètes que nous avons dans notre Bible, nous savons que c'était les vrais prophètes, mais lorsqu'ils surgissaient au milieu de leurs concitoyens, qu'est-ce qui garantissait? Ils étaient de vrais prophètes et non pas de 12 illuminés ou bien peut-être des gens animés par des esprits impurs et quoi. Qu'est-ce qui garantissait? Parfois, c'était pas facile de discerner entre un vrai et un faux prophète. Dans le livre de Jérémie, nous avons le face-à-face d'un vrai et d'un faux prophète, le vrai prophète Jérémie, mais l'autre, il parle le même genre de langage. Il fait figure de vrai prophète pour ses contemporains. Alors, quels étaient les critères? C'est très intéressant pour nous de l'observer. Ils sont définis au chapitre 13 et au chapitre 18 du livre du Deutéronome. Moïse, avant de mourir, a laissé les deux critères principaux pour reconnaître un vrai prophète. Et c'est très intéressant. Il faut qu'ils soient tous les deux satisfaits, ces critères. D'une part, le vrai prophète, il s'accorde avec ce que Dieu a révélé précédemment. Le vrai prophète ne dira jamais « Allez, je vous autorise à aller servir un autre Dieu ». Le vrai prophète se trouve dans la ligne de la loi et de tout ce que les autres vrais prophètes venus avant lui ont révélé de la part de Dieu. C'est d'ailleurs ce que Jérémie fait valoir face au faux prophète Anania. Il dit au faux prophète Anania, tu annonces la paix, comme ça, à bon compte, pour un peuple pécheur, mais les prophètes qui sont venus avant nous, c'est pas ça qu'ils ont dit. Alors, ça rend soupçonneux à l'égard de ta qualité de vrai prophète. Donc, premier critère, l'accord, l'harmonie avec ce que Dieu a révélé jusqu'au moment où surgit le prétendant au titre de prophète. Deuxième critère, l'accomplissement de ce qu'ils prédisent. Ça, bien sûr, ça vaut pour la part de prédiction dans leur message. Le vrai prophète se reconnaîtra au fait que ce qu'il annonce arrive. Et si ça n'arrive pas, eh bien, ce sera un faux prophète. Il faudra le condamner comme faux prophète. Ce n'est pas Dieu qui l'a envoyé. Alors, c'est très intéressant ces deux critères, parce que même s'il y a un prophète dont les paroles s'accomplissent, s'il n'est pas en accord avec ce qui a été révélé avant, il faudra le repousser. Ce sont des prodiges de mensonges, même si ça arrive, et il ne faut pas le suivre. Mais en même temps, il n'y a pas seulement la conformité à la doctrine, parce qu'on peut répéter ce qu'ont dit les gens d'avant, sans avoir été vraiment envoyé par Dieu. Donc il y a aussi ce miracle de prédiction qui s'accomplisse. Ce sont les deux critères qui nous sont présentés dans le Deutéronome et qui devaient jouer ensemble. Alors remarquez que pour nous, c'est assez facile de les appliquer puisque nous voyons l'accomplissement des événements, nous venons après. Mais évidemment, au moment où ils parlaient, leur prédiction n'était pas encore accomplie. Et du coup, eh bien, il pouvait y avoir des hésitations. Je préfère être dans notre situation que dans celle des auditeurs de Jérémie, par exemple, face à Anania. Dans le cas d'Anania, Jérémie a prédit qu'il mourrait dans l'année, et ça s'est produit. Anania mourrait dans l'année, puisqu'il avait prétendu être un porte-parole de l'Éternel et que l'Éternel ne l'avait pas envoyé. Alors, si vous avez maintenant une idée un peu générale du mouvement prophétique en Israël, je crois qu'il faut que j'ajoute encore quelques mots sur la manière d'interpréter, c'est-à-dire de comprendre, d'expliquer les prophéties. C'est un sujet qui est délicat, sur lequel les chrétiens évangéliques, et même les plus sérieux, ne sont pas tous d'accord. Donc il faut, je crois, quelques mots d'avertissement à ce propos. Le fait qu'il y ait des chrétiens évangéliques, et qu'il y ait suffisamment de science pour aborder ces sujets, qui finalement aboutissent à des conclusions fort différentes, doit d'abord nous porter à la prudence, doit d'abord nous porter à la tolérance fraternelle, si nous ne sommes pas tous d'accord. Ça pourra très bien arriver, même dans ces présentations que je vais essayer de faire. Je dirais que cela doit nous montrer que notre premier sentiment n'est pas forcément le bon. À mon avis, beaucoup de problèmes surgissent à propos des livres prophétiques et de leur compréhension, parce que vous avez des gens qui lisent le texte, ça leur semble être ça, ah oui, ça, à coup sûr, cela désigne Saddam Hussein et son intervention, et puis qui, ayant cru voir cela, n'en démordent plus, sont persuadés que c'est clair comme le jour. Alors je crois qu'il faut nous défier d'un premier sentiment de ce genre. Ce sont des textes qui ont été écrits dans une culture quand même assez différente de la nôtre. Le gros des livres prophétiques est écrit en poésie. Alors la poésie orientale, eh bien nous ne sommes pas forcément, nous les occidentaux du XXe siècle, parfaitement armés pour bien comprendre ce qu'elle peut signifier tout de suite. Il y a par exemple souvent des hyperboles. Dans l'Orient ancien, on aimait grossir les choses, dire des géants quand c'est des personnes de grande taille, des choses comme ça. Nous le faisons aussi parfois. Nous disons, ah, ça c'est un Hercule, c'est un géant, alors que c'est simplement quelqu'un d'assez costaud, quoi. Nous le faisons aussi, mais dans la Bible, c'est beaucoup plus fréquent, parce que c'est fréquent en Orient, dans le langage de l'époque. Alors, il faut donc savoir que c'est un langage auquel nous ne sommes pas forcément habitués, qui ne correspond pas à nos coutumes de tous les jours. Il me semble qu'un repère qui nous est particulièrement précieux, c'est tout ce que le Nouveau Testament nous apprend à propos de l'interprétation des prophéties de l'Ancien Testament. Il y en a beaucoup qui sont cités dans le Nouveau Testament. Alors, comment sont-elles comprises? On s'aperçoit que ce n'est pas toujours si simple. Mais on s'aperçoit que parfois c'est littéralement que les prophéties s'accomplissent. Et que parfois ce n'est pas littéralement que les prophéties s'accomplissent. Alors, voilà encore ce qui nous avertit dans le sens de la prudence. Exemple, une prophétie s'accomplissant littéralement. Le fait que le Messie devait naître à Bethléem. Ce qu'on trouve dans le livre de Michée au chapitre 5. Moi, j'imagine très bien que quelqu'un ait pu dire « Mais ce ne doit pas être littéral, ça. » C'est une façon de dire, puisque Bethléem, c'était le village natal de David, que ce sera un nouveau David. Il ne faut pas prendre ça littéralement. Et puis, ça s'est accompli littéralement. Jésus est né à Bethléem. Exemple d'une prophétie dont on aurait pu penser qu'elle s'accomplisse littéralement, et qui ne s'est pas accompli littéralement, la venue d'Élie comme précurseur de Jésus-Christ, du Messie. À la fin du livre de Malachie, Dieu dit qu'il enverra Élie pour le précéder au moment de ce grand jour. Et Jésus nous dit, de la manière la plus formelle, je crois que vraiment on ne peut pas hésiter, au chapitre 11 de l'évangile de Matthieu, dans les passages parallèles, que Jean-Baptiste était l'Élie qui devait venir. Était l'Élie devant venir. Vous avez certains chrétiens qui sont tellement sûrs de mieux comprendre que ce que le Nouveau Testament suggère, qu'ils disent, ah si, Élie doit encore venir, ce n'était pas Élie. Mais Jésus dit, c'est lui l'Élie devant venir. Oui. Jésus nous montre que là, il ne fallait pas comprendre littéralement, ce n'est pas l'Élie en personne, mais c'est celui qui, comme l'explique l'évangile de Luc, est venu avec la puissance d'Élie. Jean-Baptiste est un nouvel Élie, dont Élie avait été comme une préfiguration, et c'est dans ce sens qu'il est appelé l'Élie devant venir, qu'il était annoncé à la fin du livre de Malachie. Et il y a beaucoup d'autres prophéties, où par exemple il est question de Jérusalem, de tout ce qui attend Jérusalem, et où l'apôtre Paul, pour prendre juste un des auteurs du Nouveau Testament, nous dit que ce n'est pas la Jérusalem terrestre qui correspond à l'esclave Agar. C'est la Jérusalem céleste dont nous sommes, nous les fils, par la foi. C'est en l'épître aux Galates, chapitre 4, qu'il expose cela en citant une des prophéties, comme il y en a beaucoup, d'Ésaïe, sur Jérusalem et les multiples enfants qu'elle enfantera dans l'avenir. C'était Ésaïe 54 que cite Paul à ce moment-là. Donc vous voyez, ce n'est pas si simple et il faut essayer de suivre les indications du Nouveau Testament. Si une prophétie est citée dans le Nouveau Testament, ah, nous disons ouf, voilà qui va nous éclairer. Si une prophétie n'est pas citée dans le Nouveau Testament, alors là nous avons à chercher selon les lois de l'analogie. Est-ce qu'il y a une prophétie qui a l'air à peu près la même dire dans un langage semblable, qui se situe dans la même zone, qui serait interprété dans le Nouveau Testament. Ça peut nous aider pour l'Ancien, mais on n'a pas une certitude totale à ce moment-là. Une grande règle, bien sûr, et je vais achever sur cette introduction générale par cette remarque, une grande règle, c'est qu'il faut essayer d'interpréter les prophéties dans leur contexte historique. Parce que les prophètes ont été envoyés d'abord à leur peuple, à la génération à laquelle eux-mêmes appartenaient. Il faut donc, pour bien comprendre, tenir compte de la situation en laquelle leur ministère s'est déroulé. Dans certains cas, il est difficile de la reconstituer clairement, et ça nous gêne pour bien comprendre certains des éléments du message, mais souvent nous pouvons quand même retrouver à peu près ce que le prophète lui-même avait devant les yeux, ce qui entourait la proclamation du message qui ensuite a été mis par écrit. Donc, faire grande attention à ce contexte historique. Nous avons trop tendance, nous chrétiens évangéliques, parce que nous savons, et ça c'est très juste, que ces prophéties nous concernent aussi, qu'elles ne sont pas lettres mortes pour nous. Nous avons trop tendance à oublier ce contexte originel et à faire comme si ces prophéties étaient écrites en vue de la fin du XXe siècle après Jésus-Christ. Comme si c'était les événements de notre monde politique qui étaient en cause dans ces écrits. Je pense que ça n'est pas totalement exclu qu'une fois ou l'autre il y ait pu y avoir tel événement qui ait été en cause. Mais en tout cas, il faut d'abord voir si ce n'est pas dans le contexte originel du prophète que se trouve les choses dont il parle. Alors, est-ce qu'il faudrait, pour autant, toujours rattacher à des événements de son temps les choses que prédit le prophète? Certains le font, et des savants évangéliques, hein, certains le font, en essayant d'interpréter tout ce qui est dit en fonction de choses que les contemporains du prophète pouvaient voir ou qui étaient en train de s'ébaucher au moment où il parlait. Je ne crois pas que ce soit non plus une attitude juste, c'est si vous voulez la faute inverse, symétrique, de celle qui consiste à ne penser qu'à des événements situés à des milliers et des milliers d'années. Le message du prophète pouvait dépasser ce que le prophète lui-même en savait. La première épître de Pierre, au chapitre 1er, nous dit que les prophètes eux-mêmes essayaient, une fois qu'ils avaient reçu un message, de discerner à quel temps ça se rapportait, de quelle manière ça pourrait s'accomplir. Parce que cela concernait le temps du Messie. Donc, les prophètes eux-mêmes ne savaient pas tous les détails. Ils comprenaient ce qu'ils disaient, sans doute, mais cela projetait leur regard dans un avenir qu'ils ne maîtrisaient pas. Alors, cette situation nous interdit de restreindre à leur seul horizon historique à eux ce qu'ils disaient. Je crois qu'on doit plutôt penser qu'en général, ce qu'ils ont dit au nom de Dieu avait du sens pour leur propre génération. Il y avait au moins quelques aspects, quelques éléments qui touchaient la situation en laquelle eux-mêmes se trouvaient. Mais que ce n'était pas là une borne infranchissable, que leur message n'était pas enclos dans leur siècle, mais que Dieu pouvait parler d'événements bien plus tardifs aussi dans le message qu'il leur donnait. Et en particulier du grand événement qui a mis finalement plusieurs siècles à se produire, de la venue de Jésus-Christ. Remarquez que ces événements lointains avaient du sens, avaient des conséquences déjà pour les contemporains du prophète. On n'a pas à séparer complètement la situation de l'époque et puis la venue de Jésus-Christ et la fin du monde. Car en fait, ce sont les réalités de la fin du monde qui donnent leur sens à toutes les vies humaines, à toutes les époques. C'est à la lumière de ce grand plan de Dieu qui se déroule jusqu'à la fin que chaque époque particulière doit être vue pour être bien comprise. Alors, on n'a pas donc à séparer complètement les événements de l'époque d'Ésaïe et puis ce qui concernait bien des siècles après la venue de Jésus-Christ et même sa deuxième venue. On n'a pas à faire de séparation, mais je lutte surtout contre toute réduction, soit à la situation contemporaine, soit alors à un accomplissement tardif, comme si les contemporains du prophète n'avaient rien à y voir. Voilà quelques indications qui peuvent vous aider pour toute la série des prophètes et qui vous expliquent aussi, en particulier donc, l'accent sur le contexte historique, dans quel ordre nous allons étudier les livres. Nous allons commencer par les plus anciens et continuer dans l'ordre chronologique. Non pas l'ordre de nos Bibles, qui n'est pas l'ordre chronologique, mais l'ordre, effectivement, dans l'histoire de l'émission des messages et de la mise par écrit des livres prophétiques. Alors le premier, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais je me suis dit, ça risque de faire peur à tel ou tel. Le premier, c'est aussi le plus court. Donc je vais avoir le temps, en 10 minutes, de vous dire l'essentiel. Le premier, c'est celui d'Abdias. L'un des 12, appelé petit, parce qu'ils ont laissé des livres courts, ils peuvent être très grands prophètes, mais ils ont été brefs, au moins dans ce qui restait. Le livre d'Abdias, il ne contient qu'un seul chapitre, il n'est même pas divisé en chapitres, et ce chapitre n'est même pas extrêmement long. Il mérite, me semble-t-il, d'être considéré en tête, parce qu'il est très probablement le plus ancien des livres prophétiques. Abdias a sans doute vécu à l'époque d'Élisée. Sur ce livre, je vous renvoie aux commentaires que notre faculté a publiés de la plume de M. Sylvain Romerovski sur les livres de Joël et d'Abdias. La fois prochaine, je compte prendre le livre de Joël. Mais donc le commentaire traite de ces deux prophètes, les deux plus anciens, sans doute. Et sur Abdias, vous aurez tout le détail que je n'ai pas le temps de vous communiquer aujourd'hui. C'est un peu technique, c'est pour ceux qui veulent vraiment travailler, mais c'est un très, très beau traitement. Enfin, moi, j'en étais très heureux. D'ailleurs, c'est un petit peu amusant parce que M. Romerovski avait, en quelque sorte, découvert ces livres, ce livre d'Abdias, en suivant mon cours. Je l'ai eu comme étudiant autrefois, au cours sur les prophètes, qui lui avait beaucoup plu, et où je prenais des positions très proche, oui, bon, exactement, en fait, celle qu'il défend dans ce commentaire. Puis par la suite, comme j'ai lu des gens qui n'étaient pas d'accord, je commençais à hésiter un petit peu. Je me disais, est-ce que j'ai vraiment eu raison de placer Abdias le premier dans l'ordre chronologique, de le comprendre comme je l'ai fait. J'hésitais un petit peu, j'avais pas eu le temps de faire une nouvelle étude approfondie. Et puis Monsieur Romerovski, qui a poussé la recherche scientifique bien plus loin que je n'ai pu le faire, sur ce livre et qui a écrit ce commentaire, alors on a donner une défense admirable et complète des choix que j'avais donc tâtonnant un peu fait au début, de telle sorte que maintenant je suis pleinement rassuré. Voilà, c'était le bon choix. Monsieur Romerovski a fait là un travail de grande science et de grande rigueur qui aussi par moments a des accents chaleureux de type pastoral. Je pense que si vous pouvez faire l'effort d'une étude, ce livre en mérite l'effort. Alors Abdias, son nom veut dire serviteur de l'Éternel, esclave de l'Éternel. Il a été porté par pas mal de gens dans l'Ancien Testament. Nous savons qu'un haut fonctionnaire, il en est question dans le premier livre des Rois au chapitre 18, et certains rabbins ont cru que c'était le même, que c'était lui le prophète. Mais ça ne semble pas pouvoir être le cas. Le prophète Abdias devait être plutôt un judéen, un homme du sud, alors que l'Abdias d'un roi 18, le haut fonctionnaire du roi Akab, était un homme du nord. Et puis le prophète est sans doute venu 20 ou 30 ans après l'autre. Donc c'est un nom qui se donnait volontiers au 9e siècle, avant Jésus-Christ. Ce prophète, donc Abdias, nous n'en savons pratiquement rien d'autre. Comment lui assignons-nous même ce siècle ? À cause du contenu du livre, parce que le titre ne nous dit rien. Le contenu du livre semble convenir à ce moment-là, à un événement, voilà, une période qui suit un événement particulier du 9e siècle. Le livre, il peut se résumer en un cri d'indignation à l'égard de la conduite d'Édom, du peuple des Édomites. Et une annonce de jugement et de châtiment pour ce peuple d'Édom. Édom a profité de la ruine de Jérusalem, d'un pillage par des païens de la ville de Jérusalem, pour piller à son tour, pour se mêler aux pilleurs, pour massacrer les survivants, les fuyards, les attraper, les vendre comme esclaves. Voilà ce qui reprochait à Édom, qui suscite l'indignation du prophète et qui lui fait annoncer que Dieu va juger ce peuple d'Édom, que comme il a fait, il lui sera fait, qu'une sorte de loi du talion lui sera appliquée. Alors, il y a donc eu un événement qui doit être encore assez proche dans le temps pour Abdias, un événement au cours duquel Jérusalem, mise à sac, a été ravagée par les païens, des nations païennes, et où Édom en a profité. Alors on cherche dans l'histoire où se situe un tel événement. C'est comme ça qu'on assigne une période dans l'histoire à Abdias. Il y a en fait deux seuls événements qui peuvent convenir. Il y a deux fois, d'après les livres historiques, où Jérusalem a subi le sort qui est impliqué dans le texte du prophète Abdias. La plupart des gens pensent à la fois où ça a été le pire, à la grande destruction de Jérusalem en 587, à la fin de la vie de Jérémie, ce que Jérémie avait annoncé à ses compatriotes qui ne voulaient pas l'entendre. 587, la ville a été ravagée par les Babyloniens, longtemps assiégée, prise, le roi a été emmené captif, les yeux crevés, le temple a été détruit, complètement ruiné, il n'a pas resté pierre sur pierre. Et la plupart des gens, et si vous voyez l'introduction à la Bible en français courant sur Abdias, pensent que c'est à cette prise de Jérusalem par les Babyloniens en 587 avant Jésus-Christ que se réfère le prophète Abdias. C'est la position sans doute la plus fréquente, mais ce n'est pas celle que M. Romerovski a choisie, et que j'ai choisie aussi, que la plupart des évangéliques, en fait, choisissent. Pas tous, mais la plupart. Il y a eu un autre pillage de Jérusalem, avec beaucoup moins de conséquences historiques, mais quand même, ça a été très, très dur. Hein. C'était un temps de détresse pour la ville, En 845
avant Jésus-Christ.
Donc bien, bien avant. Au temps du roi Joram de Juda. C'était Joram
ou Joram, si vous préférez. En général, les
J dans nos transcriptions des noms bibliques correspondent à une lettre en hébreu qui se prononce Y, en fait. Donc on peut traduire Joram, on peut dire Joram. Le roi Joram était sur le trône et il y a eu, au cours de son règne, donc aux environs de 845 avant Jésus-Christ, une prise de Jérusalem par des Philistins et des Arabes associés qui ont ravagé la ville, qui ont emmené captifs les enfants et les épouses du roi. Ça a vraiment été très très dur, ils ont ravagé le palais lui-même. Et l'argumentation de M. Romerowski, qui je crois est tout à fait convaincante, c'est que c'est à cet épisode-là que se réfère Abdias, comme quelques dizaines d'années plus tard d'ailleurs s'y référera encore le prophète Amos. Alors, c'est comme ça qu'on situe Abdias dans cette tranche de l'histoire. Alors que trouve-t-on dans son livre? Vous voyez donc la situation, il y a eu un comportement qu'on pourrait dire presque habituel des bandes armées philistines et arabes qui ont ravagé la ville de Jérusalem, emporté les trésors. Il n'est pas dit qu'ils aient brûlé le temple, hein, c'est pas dit. C'est pas comme en 587 quand même. Mais qui ont emmené presque toute la famille royale. Mais ça, en un sens, c'est la manière de faire des païens. Qu'est-ce qui indigne le plus le prophète? Ce qui indigne le prophète, c'est qu'Édom se soit mêlé à ces gens-là, en ait profité. Parce qu'Édom, c'est le peuple frère pour Israël. Et oui, Édom, ce sont les descendants d'Ésaü.
On dit Édom ou on dit Ésaü.
Et Ésaü et Jacob, Israël, c'était les deux frères, les mêmes jumeaux, vous vous rappelez. Deux enfants, nés en même temps. Ésaü, sorti le premier, donc l'aîné théoriquement, mais qui avait abandonné parce que ça ne l'intéressait pas. Il se fiait à ses propres forces, son droit d'aînesse à Jacob, qui avait très habilement joué son jeu. Édom, c'était le peuple frère. Alors qu'il ait profité de ce sale moment de la vie de Jérusalem pour piller à son tour et pour vendre comme esclaves des gens qui s'enfuyaient. Vraiment, c'est odieux. Et c'est ça qui fait vraiment bondir le prophète Abdias. Alors il annonce, comme j'ai dit, que Édom verra un sort pareil. Que comme Édom l'a fait, il lui sera fait à son tour, ultérieurement. Dans le discours du prophète Abdias, on n'a pas tout à fait le temps de le lire, alors je me contente de le résumer maintenant. Il souligne que qu'Édom, qui est très arrogant, qui est un peuple plein d'orgueil, ne réussira pas à échapper, malgré la situation inexpugnable en apparence de sa capitale. La capitale, c'est Petra, et ce qui veut dire le rocher. C'est là où Petra, si on traduit en grec Petra, qui est en quelque sorte creusée dans la falaise. Vous voyez, c'est une situation particulièrement favorable pour se défendre contre l'ennemi. Mais malgré cela, Dieu abattra la puissance d'Édom. Édom est aussi réputé pour ses sages. Le district de Théman. Et nous le voyons en effet par le livre de Job. L'un des amis de Job, c'est Eliphaz de Théman. Il y avait une tradition de sages, de grands experts. Et aujourd'hui, ça correspondrait aux savants prix Nobel. Et tout cela, Dieu le réduira en cendres, ridiculisera la sagesse de ces hauts stratèges et savants du peuple d'Édom. Et puis, le message ne s'arrête pas là. Il annonce que quand ce grand renversement des destinées s'opérera et que la loi du talion s'appliquera à Édom, alors Dieu sauvera les siens, le reste des siens. il y aura des rescapés sur la montagne de Sion, montagne sainte, qu'à partir de là, le royaume sera reconstitué dans son unité et dans sa splendeur du temps de David. Il y a des tas de termes géographiques qui évoquent le règne de David, et même ça dépassera les frontières du royaume de David, et à l'Éternel sera le règne. La perspective finale, c'est que Dieu, exerçant ses jugements, établira finalement son règne. Voilà le condensé, si vous voulez, du message d'Abdias. Alors je me contente de deux ou trois mots de commentaire à son propos. Il n'y a pas doute que quand on le lit au XXe siècle, avec le conditionnement du discours courant de nos médias, avec aussi notre sensibilité de chrétien formée par le Nouveau Testament, il y a de quoi être heurté, peut-être même scandalisé. C'est un cri de vengeance qui appelle la destruction sur Édom. Alors nous nous disons, mais enfin, n'est-ce pas Jésus qui nous a dit de ne pas rendre le mal pour le mal? Vous voyez la difficulté? Alors à ce propos, je crois qu'il nous faut nous rappeler la différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Oui, d'accord, les ennemis maintenant, ce sont les esprits malins, ce sont vraiment les hommes de chair et de sang, parce que le royaume de Dieu est maintenant présent sous une forme spirituelle, alors qu'en Israël, il était établi sous une forme politique, en Israël. Il y a la différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Mais il y a surtout la différence entre le problème de la vengeance personnelle et celui de la justice, de la juste rétribution. Dans le Nouveau Testament aussi, il est question des jugements et de châtiments, et de façon terrible. Seulement, Dieu dit « à moi la rétribution ». Voilà le message que le Nouveau Testament nous fait entendre. Dieu dit « à moi la rétribution », la charge de juger et de satisfaire la justice, ce n'est pas à vous de vous en charger. Vous, pardonnez gratuitement, comme il vous a été pardonné. Vous, ne rendez pas le mal pour le mal. À moi la rétribution. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. À moi la rétribution. C'est ce qu'on trouve à la fin de Romains 12. Ce qui est dramatique dans la situation des mentalités d'aujourd'hui, c'est qu'on a tout confondu, tout mélangé, et que sous prétexte de compassion, de solidarité avec le prochain, de sympathie, on en vient à vider l'idée de justice de toute sa force, à renier même formellement le principe de la rétribution. On ne sent plus qu'il faut que la justice soit satisfaite. Et cela, alors, ce n'est pas en accord avec la Bible. Bon, j'ai encore été frappé d'entendre dans le discours des médias de ces derniers temps tous ceux qui sont impliqués dans l'affreuse affaire de ce crime du sang contaminé par le virus du sida qui a été encore vendu pendant, dispensé pendant plusieurs mois, alors que des responsables le savaient. Quelle a été la formule clé de ces gens qui se défendent? Responsable oui, coupable non. Vous l'avez entendu. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que la culpabilité, être coupable, sinon être responsable d'une faute, d'un crime? Vous définissez quelqu'un de coupable en disant qu'il est responsable d'une faute, d'un crime. Mais voilà. Bien sûr, c'est aussi parce que le mot responsable fait bien, le mot coupable fait mal. Alors, à cause du retentissement dans les médias, voilà le discours qu'on a tenu. Mais il y a un manque de sens de l'exigence de la justice que la Bible atteste. Dieu ne nous pardonne pas sans satisfaire cette justice. C'est pour cela qu'il a envoyé Jésus-Christ, que Jésus-Christ a dû subir cet horrible supplice, parce qu'il fallait que la justice soit entièrement satisfaite, que la dette soit payée. Dieu ne réagit pas comme si cette loi de la rétribution était une affaire de barbarie dépassée. Pas du tout ça. Bon, je crois que pour nous mettre dans l'attitude biblique face à un message dur comme celui du livre d'Abias, nous avons à nous rappeler ces choses. Ensuite, peut-être rappeler, et ce sera vraiment la fin, deux choses, que le talion, c'est une limitation de la vengeance barbare. Comme tu as fait, il te sera fait. Alors que l'homme qui se venge, il prétend, comme la Mecque, se venger 77 fois. Oui. Et arracher la vie d'un jeune homme pour une meurtrissure, pour une écorchure, il tue quelqu'un. Le talion, c'est une limitation. Cela illustre, me semble-t-il, la nature même du châtiment. Le châtiment, c'est le boomerang de l'acte mauvais. Celui qui a commis un acte mauvais le voit retourner sur lui. Ça rebondit sur la réalité spirituelle de la justice qui est là, et comme quand vous donnez un coup, ben ça rebondit, l'acte mauvais rebondit. C'est ça le châtiment. Ça, c'est ma première remarque de conclusion. Et la dernière, c'est que cette vision de châtiment n'est pas le dernier mot, que tous les derniers versets du chapitre nous laissent voir la splendeur du règne de Dieu établi, règne de justice, de paix, de victoire. À l'éternel sera le règne. Voilà le dernier mot qui doit attirer notre regard et renforcer notre espérance. Voilà donc une introduction rapide au livre d'Abdias. Comme c'est un livre très, très court, je lui ai donné peu de temps. Nous verrons bien sûr un peu plus longuement les livres plus longs. Est-ce que vous avez, pendant les 3-4 minutes qui restent, une question, Monsieur Berger?
Contrairement à ce que dit le Coran, Jésus n'était pas un prophète. Il n'a pas parlé de la part de Dieu. Il a parlé avec autorité.
Oui, donc M. Berger souligne que Jésus n'était pas un prophète, qu'il parlait avec autorité. Je pense qu'il faut dire qu'il était un prophète et plus qu'un prophète. C'est comme ça que je formule la chose pour ma part, de manière habituelle. Il est appelé prophète parfois, il ne refuse pas ce titre. En un sens, on peut même dire qu'il est le prophète avec majuscule que Deutéronome 18 annonçait, nouveau Moïse. Et puis, il faut dire alors qu'il est plus qu'un prophète, parce qu'en effet, il n'est pas seulement porte-parole de Dieu, il l'est aussi, mais il est Dieu lui-même parlant. Oui, madame. Oui. 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 Oui, oui, vous rappelez exactement les événements. Je signale quelle est la question. Jean-Baptiste, donc, d'après le témoignage de l'évangile de Jean, a désigné en Jésus l'agneau de Dieu qui devait venir. Et puis, en prison, d'après le début de Matthieu 11, en prison, il a eu des doutes. Il a dit, es-tu vraiment celui qui doit venir? Il a envoyé ses disciples pour porter cette question à Jésus, ou devons-nous en attendre un autre? Pour moi, c'est quelque chose qui montre à quel point, d'abord, la Bible est honnête, ne truque jamais la réalité historique, et combien les hommes de la Bible sont des hommes, sont humains. Jean-Baptiste a effectivement prophétisé avec une pleine assurance, voici l'agneau de Dieu. Mais c'était un homme fragile, comme nous le sommes, et dans sa prison, il a eu des doutes. Il peut nous arriver, nous aussi, de rendre un témoignage plein d'assurance, et puis quelques jours après, quelques mois après, d'avoir des doutes. Il me semble que le pauvre Jean-Baptiste a connu une expérience avec laquelle nous pouvons sympathiser. Ça nous arrive aussi, d'être assiégé par une tentation de doute. Et à quoi s'est-elle sans doute rattaché cette tentation qu'il a eue? Probablement, quand il a dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde », il a imaginé une manière de le faire qui n'était pas la bonne. Ça n'a pas fait partie de sa prophétie, mais comment est-ce qu'il a, lui, imaginé que ça se passerait? Probablement, il a imaginé que Jésus allait agir avec pas mal de fracas, en chassant tous ses ennemis, il a son vent à la main, il va nettoyer son air, et c'est le temps du jugement qui arrive. Et puis, ça ne s'est pas passé comme ça. Jésus l'a laissé aller en prison, n'a rien fait pour l'en sortir. Jésus, bien sûr, il a fait parler de lui, les foules ont été attirées, mais enfin, ça ne changeait quand même pas grand-chose en Palestine. Alors, c'est à cause de cette différence avec son attente, sa manière d'imaginer les choses, qu'il a eu ses doutes. Et Jésus lui a répondu, mais toutes les prophéties, elles s'accomplissent. Les aveugles voient, les boiteux marchent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Tu sais bien, Jean-Baptiste, tout ça, c'est dit dans les prophètes, et je le fais. Mais Jésus s'est arrangé pour le faire d'une manière si discrète qu'il ne forçait pas la foi de ceux qui l'entouraient. Il y avait bien assez de signes qu'il était celui qui devait venir pour que ceux qui avaient le cœur droit puissent en avoir l'assurance. Mais Jésus l'a fait, malgré la présence de miracles qui auraient dû stupéfier tout le monde, il l'a fait de façon que ceux qui ne voulaient pas pouvaient se fermer les yeux et ne pas le reconnaître. Voilà, vous rappelez donc ce que vous avez très, très utilement fait surgir dans notre mémoire. Voilà, je crois que c'est à peu près l'heure maintenant. Nous pouvons en rester là, n'est-ce pas? Alors, pour la prochaine fois, si vous pouvez lire le livre de Joël, pour le mois de décembre, Dieu voulant, donc, c'est le livre de Joël que je voudrais présenter.
everything up here, please. And a bit more monitor if you got it. Ah! Yeah, can you have everything louder than everything else? Right.